patria, patriarca, 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 patri, patriarca, patri.
Le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butch are strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and holes.
Et on se prend la main, et on se prend la main. Une fille en masculin, un garçon au féminin.
Notre révolution sera sans concession.
Dégenré, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Pas d'enfants, pas de fruits à mon arbre, à mon chêne pas de glands, à mon utérus pas de barbe. Je ne veux pas d'enfants pour consoler ma mort, pas de petits mutants, pas de petits médors. Je ne veux pas d'enfants qui sèchent au tableau noir, à la guerre de 100 ans au fond d'un réfectoire. Pas d'enfants au curé, au gradé, au bidas. Pas d'enfants au piquet, ni première de la classe. Je ne veux pas d'enfants qui pleurent ou qui babillent, et dont on sera fier quand il fera souffrir les filles. Je ne veux pas d'enfants pour réussir mes rêves, les rêves des parents qui s'étiolent et qui crèvent. Je ne veux pas d'enfants qu'on s'épingle en médaille, qu'on arbore clinquant bien avant la bataille. Je ne veux pas d'enfants pour la paix des ménages, petits témoins tremblants des couples en naufrage. Je ne veux pas d'enfants. Je ne suis pas normal, j'ai déserté les rangs du troupeau génital. C'est comme si j'étais pute, féministe et violente, enfin de cette pègre qui fait peur à tout le monde. Je ne veux pas d'enfant, je le gueule à la face de ce monde de grands assassins et rapaces. Pas d'enfant pour vos guerres, vous les ferez sans lui. dans le sein de sa mère, elle objecte sa vie. Dans le sein de sa mère, elle objecte sa vie.
Oui, tout à fait. Alors là, je vous conseillerais une stérilisation volontaire.
Une quoi ?
Une stérilisation volontaire, vraiment, par rapport à ce que vous dites, ce que j'entends. C'est un conseil.
Mais vous, comment vous connaissez ça ? D'où vous vous intéressez à ça ?
Personnellement, je suis arrivée à la stérilisation volontaire en me rendant compte que c'était pas ça qu'il me fallait. Mais au départ, parce que je n'ai pas désir d'enfant, je n'en ai jamais eu. Et c'est vrai que les règles m'emmerdent. Hormonalement, ça me fait mal deux fois par mois quand j'ovule et lorsque j'ai mes règles. Alors je me suis dit, tiens, est-ce que la stérilisation volontaire ne permettrait pas d'annuler mon cycle hormonal de règles ? En fait, pas du tout. Ce serait une hystérectomie qu'il me faudrait, donc un acte chirurgical qui consiste à enlever tout ou partie de l'utérus. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de stérilisation volontaire. Bienvenue sur Dégenrer, la radio pour déranger.
Bienvenue, bonsoir. Et donc, voilà, ce soir, on va vous raconter un peu des choses autour de ce sujet, la stérilisation volontaire. On en parle très peu. On en entend très peu parler. Ce soir, on va vous expliquer, vous exposer les techniques, le cadre législatif, pour que vous sachiez tout sur ce sujet-là. Et puis, on exposera aussi un peu le cadre social dans lequel cette pratique s'implante ou justement si mal. On se posera les questions de pourquoi justement en France, il y a autant de résistance autour de cet acte. De la part des médecins, de la part
de l'entourage
et tout ça. Mmh. On écoutera un témoignage d'une femme qui elle-même s'est stérilisée. Et puis on va écouter plein de musique. Et d'ailleurs, pour commencer, qu'est-ce qu'on va écouter ?
Alors, pour commencer, on vous propose un Dalida.
Ah oui !
Ça durera à peine deux petites minutes, mais ce sont deux chouettes minutes de Dalida.
Vous raconter un petit peu comment il est possible en France de se stériliser, de faire ce choix-là. Parce que jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, c'était très très compliqué de trouver un médecin qui accepte de pratiquer cette intervention de stérilisation. Jusqu'en 2001, en gros, il n'y avait pas de loi. Enfin, c'était considéré par les médecins comme une...
En tout cas, c'était pas légal avant 2001.
C'était pas vraiment légal avant 2001.
Ça pouvait se pratiquer.
Ça se pratiquait de façon un peu informelle, comme ça, mais au compte-gouttes, et les médecins hésitaient à le faire parce qu'ils avaient peur du tribunal. Et depuis 2001, donc cette loi dont on entend plus souvent parler, parce que c'est la loi qui a rallongé les délais de l'IVG de 12 à 14 semaines, qui a rendu plus facile l'accès à l'avortement pour les mineurs. Enfin, elle est connue pour ça, cette loi.
La pilule du lendemain aussi, la pilule du lendemain, en pharmacie.
Voilà, sans ordonnance, donc tous ces changements-là. Et aussi, ce qu'on connaît moins, c'est que la loi de 2001 donc, pose un cadre légal qui autorise la stérilisation volontaire à tous les hommes et toutes les femmes majeures. Donc c'est le premier point de la loi. Toute personne majeure, tout homme, toute femme majeure peut faire le choix de se stériliser. Donc la majorité étant à 18 ans, voilà. Ça n'est pas, la stérilisation volontaire n'est pas accessible aux personnes mineures. Ça c'est le premier point important. La loi pose aussi un cadre qui oblige un délai de réflexion de 4 mois. C'est très long. Donc vraiment pour être sûr que les personnes sont sûres de leur choix, ont vraiment pris le temps de réfléchir.
C'est-à-dire à la première, je vais à une consultation voir un médecin, je lui dis je souhaite faire une stérilisation volontaire, il me donnera a priori les informations nécessaires et j'ai obligation de 4 mois de réflexion avant d'entériner cette demande en fait.
La personne qui vient faire la consultation fait état de sa demande, le médecin lui donne toutes les informations pour être en mesure de faire un vrai choix. Je lis quasiment le texte de loi. Le médecin doit donner des informations sur les autres méthodes contraceptives, toutes les informations nécessaires à faire le choix. Le médecin doit également, s'il ne souhaite pas pratiquer cet acte, il est tenu de vous en informer dès le premier rendez-vous, de vous dire « moi, je ne pratique pas la stérilisation » et la loi, normalement, l'oblige à vous diriger vers un praticien ou une praticienne qui, elle ou lui, pratiquera cet acte. Alors ça, c'est très important de le savoir, c'est comme l'avortement, en fait. Un médecin qui ne veut pas pratiquer un avortement ou une stérilisation est obligé de vous diriger vers un confrère ou une consœur qui le fera.
Comme tout acte, comme toute demande d'acte chirurgical, il peut refuser, mais il ne te laisse pas à la rue, quoi.
C'est très important parce que, bon, il faut savoir que la plupart des médecins refusent. Alors, c'est au moins important de savoir, de dire, bon, mais alors qui ? Alors, qui le fait ? Donc, ça, c'est la première rencontre. Ensuite, il y a effectivement les 4 mois de réflexion obligatoire posée par la loi. Et lors de la deuxième consultation, la deuxième consultation consiste en juste un consentement écrit. Donc, on écrit, on signe une feuille de consentement. Et c'est le seul consentement qui est recueilli pour la réalisation de l'acte. Et le consentement de la personne elle-même, de personne d'autre. Tout à l'heure, on parlera plus des résistances des médecins, des abus, mais c'est important, vous verrez cette question de... C'est la seule personne elle-même qui est responsable et qui est la seule personne apte à décider de sa volonté de se stériliser, parce qu'il y a des médecins qui demandent l'accord du conjoint et tout ça. La loi, normalement, prévoit qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Une personne, un individu, va pouvoir tout seul, sans besoin, même si elle est mariée ou quoi, elle peut décider de le faire sans l'accord de son mari, il n'y a pas besoin dans la loi. Et donc après, il y a l'intervention chirurgicale elle-même.
Donc là, il y a plusieurs méthodes qui sont proposées.
Voilà. Alors, jusqu'à... la méthode la plus courante jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est la ligature des trompes. De façon générale, le principe de la stérilisation féminine, c'est toujours le même. C'est un principe mécanique qui va empêcher la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Pour empêcher cette rencontre, on va empêcher l'accès, couper l'accès des trompes de Fallope. Les trompes de Fallope, c'est le petit couloir qu'il y a entre l'ovaire et l'utérus. Et donc, en coupant ce couloir, je parle de façon imagée pour être un peu claire, je fais plein de gestes, mais vous ne les voyez pas, et ben on empêche donc la rencontre entre l'ovule qui vient de l'ovaire et les spermatozoïdes qui viennent du vagin, de l'utérus, enfin, vous connaissez un peu le chemin. Et donc, pour couper cet accès, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode de la ligature des trompes. Donc, pour la ligature des trompes, soit on va sectionner la trompe, le plus souvent, la méthode la plus courante, j'ai l'impression, c'est par des clips. on pose des petits clips comme des petites barrettes sur chacune des trompes. Et voilà, ça empêche donc la rencontre entre un ovule et les spermatozoïdes, donc ça empêche la fécondation.
Okay.
Cette méthode-là, il faut toujours considérer qu'elle est irréversible. Il faut toujours considérer ça, mais il se trouve qu'elle n'est pas efficace à 100%. Il y a des chances ou des risques en fonction de quelle position on se place. Mais enfin, en tout cas, il y a des possibilités que ça ne marche pas, que le corps se répare tout seul, ou que les clips s'en aillent. Et particulièrement chez les jeunes femmes. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en général, il y a de grandes résistances à pratiquer la ligature des trompes chez les jeunes femmes. Bon, je pense qu'il y a des grandes résistances morales, on en parlera plus après. Mais c'est aussi, en vrai, il y a un argument médical qui est celui qu'à moins de 30 ans, en gros, on est super fertile. Notre corps est tellement super fertile qu'il est capable de se réparer, de reconstruire la trompe, pour, vous voyez. Donc, voilà.
Donc c'est plutôt conseillé à ce moment-là de ne pas forcément passer par un acte chirurgical lourd, d'avoir d'autres méthodes contraceptives.
Voilà,
et après 30 ans, où il y a plus de sécurité qu'il n'y ait pas de fécondation, la stérilisation. C'est le seul argument médical qui peut être
qui est valable. C'est le seul. Sachant qu'il y a la nouvelle méthode, et il me semble que cet argument médical n'est pas valable avec la nouvelle méthode, c'est une méthode qui est assez récente. Parce que voilà, la ligature des trompes, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour cette méthode-là, donc ça consiste en une opération avec anesthésie locale ou générale. Et donc voilà, pendant l'anesthésie, on va inciser au niveau des côtés, comme vous voyez, vous imaginez au niveau des ovaires, en fait, des trompes, et au niveau du nombril. Enfin, vous voyez, c'est des petites cicatrices, mais c'est quand même une opération. Donc avec anesthésie. La nouvelle méthode, qui s'appelle la méthode Essure, qui est assez récente, et donc c'est un peu la nouvelle méthode à la mode, c'est une méthode qui est plus douce, plus soft, qui se fait sans anesthésie, qui se fait sans hospitalisation, en moins d'une heure. Et en fait, on va passer par ce qu'ils appellent les voies naturelles. Alors en gros, on va passer par le vagin et par l'utérus, donc comme pour un examen gynécologique, on va poser un spéculum, on va ouvrir le col de l'utérus, et on va passer par l'utérus pour aller injecter dans les trompes de Fallope, donc qui partent de l'utérus, de chaque côté de l'utérus, on va aller injecter un petit implant qui est en forme de ressort, un peu, de petit ressort, qui va aller se coincer dans les trompes. Et là, ça prend plusieurs mois. Par contre, la méthode n'est pas efficace tout de suite, parce que ça va prendre 1 à 3 mois pour que, en fait, le corps fibrose autour de ces petits implants et donc bouche complètement le passage. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'arrive à rendre clair à la radio, c'est un truc de fibrose, vous voyez, ça crée de la chair, enfin, ça crée des cellules, je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne suis pas biologiste.
Comme un moule, en fait, ça se moule,
voilà.
Ça se tisse et se moule sur la trompe, et ça ferme...
Ça ferme complètement l'accès. Mmh. Alors, cette méthode-là a plusieurs avantages. Elle est rapide, elle prend moins d'une heure. Anesthésie locale, quand même, parce qu'effectivement, on passe par l'utérus, je pense que ça peut faire un peu mal, mais donc sous anesthésie locale. Pas d'hospitalisation, pas de convalescence, pas de cicatrices. Et l'efficacité est assez bonne, voire très très bonne. Cette méthode est vraiment complètement irréversible. Il y a 100% de réussite, je crois. 99,9% de réussite.
Oui, ce que tu disais par rapport à la ligature des trompes, c'est qu'en effet, ça nécessite 48 heures d'hospitalisation et une semaine de convalescence. C'est un acte chirurgical qui est très lourd, en fait, par rapport à la méthode Essure.
Voilà.
Donc, et est-ce que ces méthodes sont remboursées par la Sécurité sociale ?
Oui, normalement, elles sont remboursées par le régime général. Et je pense que selon... Alors après, est-ce que les médecins font des dépassements d'honoraires ? C'est très possible. Et après, selon la mutuelle qu'on a, j'imagine, plus on a une bonne mutuelle, plus on a de chances d'être remboursé complètement. Mais a priori, c'est pris en charge par la Sécurité sociale.
Là, il y a un numéro, par exemple, que je peux laisser à l'antenne... Sur la technique Essure, en tout cas, mais je pense qu'il peut aussi vous amener vers d'autres techniques de stérilisation.
Alors, on n'a pas testé le numéro.
On n'a pas testé.
À vérifier que ce n'est pas un vieux numéro qui ne marche plus.
Donc, le 01 30 84 75 15.
Et c'est un numéro pour savoir les établissements qui sont susceptibles de pratiquer la méthode Essure. Bon, à mon avis, c'est un numéro du coup où on sait à qui est sûr a vendu son projet. Je pense que c'est ça en vérité.
Un truc important aussi là que je lis, c'est que la stérilisation féminine ne modifie en rien l'équilibre hormonal, le désir et le plaisir sexuel. Ce que j'expliquais tout à l'heure, par exemple, je me questionnais personnellement sur une intervention au niveau du non-désir d'enfant et des douleurs de mes règles. Donc la stérilisation féminine ne résout en rien la question du cycle hormonal. Je continue à ovuler, je continue à avoir mes règles, etc. Et par contre, c'est hyper important de dire que ça ne modifie ni le désir, ni le plaisir sexuel.
Donc c'est important ce truc des règles, et vous pouvez imaginer pourquoi. C'est parce qu'en fait... Tout le cycle des règles et de ça, c'est complètement lié au fonctionnement des ovaires. Et les ovaires ne s'arrêtent pas de fonctionner. C'est juste que c'est coupé. C'est pour ça qu'on continue d'avoir ces règles après une stérilisation féminine.
Alors là, on va vous proposer de faire une petite pause musicale. On reviendra sur les résistances, les pressions sociales. Donc on va écouter New Blood, la 7 et la 8 de leur dernier album qui s'appelle Day After Day and the Cycle Song.
Day after day, the sun shines its light. Night after night, the stars shining bright. There comes a time, there ain't no light. Only night, only night, only night. In time to come. Day after day, the sun shines. Night after night, the stars shining bright. There comes a time, only night, only night, only night, only night. In time to come.
I was never taken in. I know what comes home.
Alors là, nous avons vu un petit peu les aspects législatifs et au niveau de l'acte chirurgical, comment ça se passe. C'est important de savoir que ça, c'est la théorie et qu'en pratique, ça ne se passe pas forcément comme ça. Tout d'abord, il est nécessaire de savoir que la France est en retard en matière de stérilisation volontaire. Donc en Angleterre, comme aux Pays-Bas, en Allemagne, dans des pays scandinaves, en Italie, en Autriche, en Espagne, aux États-Unis ou même au Canada, la stérilisation est considérée comme une démarche individuelle dans laquelle le rôle du médecin consiste à indiquer les avantages, les inconvénients, les risques, les contre-indications, c'est-à-dire de manière générale aider le patient à faire un choix ou la patiente à faire un choix éclairé sans projeter sur lui ni lui imposer ses valeurs personnelles, ce qui ne se passe pas comme ça en France, par exemple.
Oui, on a de nombreux témoignages qui disent ça, que vraiment, on sent que le médecin est plein de ses idéologies à lui. Encore hier, un témoignage qui nous racontait ça, un homme qui va voir un médecin pour se stériliser. Parce que là, aujourd'hui, on parle surtout des stérilisations féminines, mais bon, la vasectomie est aussi... la loi est la même pour la vasectomie, donc pour la stérilisation masculine. Donc un témoignage d'un mec qui va voir un médecin pour se faire stériliser. Le médecin qui lui dit « Mais si vous tombez amoureux d'une autre femme, si vous divorcez, si vous rencontrez une nouvelle femme, mais vous voudrez d'autres enfants. » Enfin, clairement, là, le médecin,
il se projette
dans son patient. Et moi, je trouve ça hallucinant, en fait.
Il y a aussi toute notre culture qui a un impact. Il faut savoir, comme tu le disais tout à l'heure, qu'en France, pendant très longtemps, la stérilisation volontaire était interdite par la loi et c'était encore au nom du principe de non-mutilation du corps. Et c'est un principe qui remonte à Napoléon. Donc jusqu'en 2001, on vivait avec ce vieux principe. Et ça aussi, ça nous maintient dans des schémas de pensée vraiment à l'ancienne. Donc un point important également, c'est la pression sociale qui est d'une grande violence. C'est-à-dire que l'immense majorité des femmes qui demandent une ligature des trombes s'entendent dire...
Mais vous êtes trop jeune, vous pourriez le regretter. Et si vous perdez un enfant, si vous perdez tous vos enfants, vous voudrez peut-être en avoir un autre. Et si vous divorcez pour vous remarier,
etc. Donc toutes ces remarques sont bien sûr à reprocher de commentaires style
« Est-ce qu'il ne serait pas temps pour vous d'avoir des enfants ?»
Clairement que subissent les femmes sans enfants qui, à 35 ans, désirent de changer de contraception pour passer de la pilule au stérilet ou à la stérilisation volontaire, par exemple. Il faut savoir que la pression sociale qu'ils exercent sur les femmes pour les inciter à avoir des enfants est d'une grande violence. C'est une violence à l'encontre des femmes. Et les médecins, certains médecins, en sont les premiers agents. Lorsqu'ils refusent une contraception sous des prétextes non scientifiques, par exemple, tout comme lorsqu'ils dirigent hâtivement des femmes inquiètes de ne pas être enceintes vers des explorations lourdes, douloureuses, des méthodes de procréation assistée, très lucratives pour ceux qui le pratiquent.
Très lucratives, ça veut dire que ça rapporte beaucoup d'argent.
C'est ça. Donc la résistance ou les intimidations des médecins à l'égard de ce choix est souvent identique. Les conditions imposées aux femmes, c'est-à-dire avoir un certain âge ou un certain nombre d'enfants, sont non seulement arbitraires, mais illégales. Elles ne font que traduire l'idéologie et les valeurs personnelles du médecin.
Je rappelle ce que je disais tout à l'heure de la loi. Toute personne majeure, normalement, doit pouvoir avoir accès, a le droit d'avoir accès à une stérilisation. La loi autorise une personne de 18 ans à se stériliser. Dans les faits et dans les pratiques, c'est impossible en France. Aucun médecin n'acceptera de stériliser une personne de 18 ans. Même de 20 ans, 25 ans. Avant 30 ans, c'est extrêmement difficile de trouver un médecin qui acceptera de pratiquer cet acte-là.
Et comme tu disais tout à l'heure, il n'est pas question d'imposer une intervention à un médecin, mais d'exiger plusieurs choses légitimes de lui, c'est-à-dire de l'information, entre autres, ou de le diriger vers d'autres médecins qui sont en accord avec les principes de la diffusion d'informations. Un autre point qui est important... qui nous questionne aussi, c'est la question. Quand est-ce que la décision de se faire stériliser est-elle valide et par qui est-elle validée ? Donc, les médecins qui refusent de pratiquer une intervention chirurgicale de stérilisation sur une personne consentante sont souvent influencés, consciemment ou pas, par des images très violentes, en particulier celles des stérilisations forcées. Imposé par tout gouvernement, on l'a vu sous l'Allemagne nazie, mais aussi sur les populations dites socialement indésirables aux États-Unis dans les années 20, donc les handicapés, mais aussi les pauvres, les alcooliques, les personnes de couleur aussi. Donc sur des multiples de populations au fil des siècles. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, encore une fois, culturellement...
Un espèce de traumatisme historique autour de cette question de la stérilisation forcée.
Voilà. Là, on parle bien de stérilisation volontaire avec une personne consentante. Et pourtant, on continue à leur dire...
Mais vous êtes trop jeune pour vous faire ligaturer les trompes. Vous n'avez que 2 enfants. Peut-être que vous en voudrez un 3e. Comment vous pouvez savoir que dans 10 ans, vous ne changerez pas d'avis ?
Voilà. Mais seulement un couple qui, à 25 ans, a déjà 4 enfants et n'en veut pas d'autres, aurait-il moins de raisons de choisir une stérilisation qu'un couple qui, à 38 ans, n'en a qu'un et n'en veut pas d'autres ? Ou qu'une personne célibataire qui décide de ne jamais avoir d'enfant ? Quand on pose la question ainsi, en introduisant des critères comme l'âge, le nombre d'enfants, on ignore et on nie que la vie, l'expérience et les décisions des individus n'ont rien à voir avec l'âge ou le nombre d'enfants.
Ça, je trouve ça hyper intéressant de voir comme on est bien dans une société qui est âgiste et qui considère qu'on n'est pas responsable de ses, on est moins responsable de ses choix à 20 ans qu'à 35. Pourquoi considérer qu'on n'est pas autonome de ses choix à 18 ans et peut-être complètement immature à 45 quoi. Enfin, ouais, ça questionne vraiment cette question de l'âge, alors qu'on peut tout à fait se sentir capable d'avoir un enfant, on peut tout à fait se sentir sûr de soi qu'on ne veut pas d'enfant. Et la seule personne capable de le dire, c'est soi-même, c'est l'intéressé.
Il y a personnellement, par exemple, je me sens entre guillemets capable d'avoir un enfant, mais pas plus. C'est-à-dire que je n'en désire pas. Et ça, c'est hyper important aussi de l'affirmer. C'est-à-dire, c'est pas en, toujours aussi ces trucs en termes de capacité où on va te renvoyer la peur. Souvent, on me dit, mais en fait, t'as pas désir d'enfant, mais parce que t'as peur, parce que t'as eu une enfance douloureuse. On invoque aussi plein de choses et que ça, ça emmerde aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas, on parle pas en termes de capacité. On peut aimer les gosses, on peut ne pas les aimer, on peut se sentir en capacité, on peut ne pas se sentir en capacité. Il arrive qu'au bout, j'ai pas de désir. Et c'est ça qui est à entendre. Donc moi, je pose cette question, en quoi un médecin serait-il plus apte que l'intéressé, moi en l'occurrence, ou une autre en l'occurrence, à déterminer ce qui est bon pour elle ou pour lui ? Voilà, le rôle du médecin, c'est pas de servir de directeur de conscience, c'est d'aider la personne à identifier ses motifs à sa demande et déterminer si la stérilisation est la meilleure solution ou la moins mauvaise, enfin, voir ensemble en fait, en fonction en effet de l'âge, par rapport au fait qu'à moins de 30 ans, c'est peut-être pas la meilleure solution médicale, etc.
Peut-être on s'écoute un petit morceau de musique.
Allez, alors on va s'écouter Missy Elliott, une musique qui s'appelle Get a Freak On.
これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Headbanger。I'm the hottest round. I told y'all mother, y'all can't stop me now. Listen to me now. I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Is you with me now? Then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style.
Holla, holla.
People sing around. Now people gather around. Now people jump around. Get your freak on. Get your freak on. Get your freak on. Get your freak on. You don't know, me and Timberland been high since 20 years ago. What the dealio, now what the drillio. If you wanna battle me, then let me know. Got the feeling, son, let me throw you some. People, here I come, now sweat me when I'm done. We got the radio shook like we got a gun.
Get your freak on.
your mouth. Silence when I spit it out. In your face, open your mouth, give you a taste.
Holla,
ain't no stopping me. Copywritten, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now. I know you hear me laugh. I scream it loud and proud. Missy gon' blow it down. People gon' play me now. In and out of town, 'cause I'm the best around with the crazy style.
Get your freak on. 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 Get your freak on.
Vous écoutez Dégenré sur Radio Kaléidoscope 97 FM. On vient d'écouter une petite chanson de Missy Elliott. Et ce soir, on vous parle de la stérilisation volontaire. On se pose des questions autour de cet acte. Donc on a un peu raconté comment ça se passe techniquement, quelles sont les méthodes, quelle est la loi autour de ça. Donc voilà, cette méthode est légale, cadrée par la loi. Et là, on est un peu en train de réfléchir et d'essayer de trouver les raisons des résistances, puisqu'en France, on observe énormément de résistances de la part des médecins, de la part de l'entourage. Donc, ce sont des résistances morales, des résistances, j'ai envie de dire, politiques, au sens de ce qu'elles amènent comme questionnement sur le rapport à la famille, à l'enfantement et tout. Voilà.
L'observation qui est faite, c'est que des témoignages qu'on a ou des livres que nous avons eus en main, c'est que le choix d'une stérilisation n'est pas le même selon qu'on a eu ou non des enfants. Quand des personnes en ont, c'est pour ne plus en avoir, par exemple. Quand des personnes n'en ont pas, c'est pour ne jamais en avoir. Mais dans un cas comme dans l'autre, il est important de dire, d'affirmer qu'il s'agit d'un choix aussi important que celui de rester célibataire, de se marier, de divorcer, d'avoir ou pas d'avoir des enfants, que ce sont des choix respectables, quels qu'ils soient. Et en conscience, personne, donc ni le patient ni le médecin, ne peut savoir si la décision de ne pas plus avoir d'enfants est une décision qu'on regrettera ou non, parce que c'est un argument qui est souvent apposé aux personnes.
Hein, c'est l'argument majeur, hein, mais
voilà,
si
vous allez
regretter,
le regretter. Voilà.
Et derrière cette peur de regretter, bon, le médecin, c'est pas juste humaniste de sa part de se dire « Ah, mais si vous regrettez », c'est aussi, on est dans une société qui fonctionne vachement avec des procès. Donc, je pense qu'il y a une énorme peur de la part des médecins aussi que des femmes fassent ensuite des procès pour dire « en fait, je ne peux plus ». Enfin, vous savez, on a cette société de fous un peu comme ça.
À savoir que maintenant, par la légalisation de cet acte, le médecin ne risque plus rien en vrai non plus.
Et on signe, puisqu'en plus, ce que je racontais tout à l'heure, c'est qu'on signe un papier qui dit « voilà, j'ai fait le choix de me stériliser ».
Alors pareil, des observations sont faites de dire que, en effet, la stérilisation volontaire est une décision importante et irréparable, mais n'impliquant que la première personne intéressée, elle n'est somme toute pas plus importante que celle d'avoir des enfants. Donc on utilise même le mot grave. Hein,
oui, voilà, on va dire, c'est, effectivement, dans la vie, c'est grave, c'est, au sens, c'est important, c'est sérieux, c'est du sérieux de décider de se stériliser. Mais décider d'avoir des enfants, décider d'accoucher, d'avoir des enfants, est-ce que c'est pas sérieux ? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est pas un putain d'engagement pour toute la vie?
Non, bah, ça met vrai. En jeu la vie de plein de personnes, de décider d'avoir des gosses, l'autre géniteur, les enfants qu'on décide d'avoir, leurs propres enfants à venir, l'impact sur la société, etc. Et en effet, on ne demande jamais à une personne qui souhaite avoir des enfants.
Est-ce que vous êtes sûr?
On va vous laisser un délai de réflexion de 4 mois avant de pouvoir vraiment vous débarrasser de vos contraceptifs. Voilà, donc on pose des termes comme grave, etc. sur des questions de stérilisation et point sur des questions de maternité et du fait d'être parent, alors que ce sont des questions tout aussi importantes.
Et soyons bien clairs que nous, on ne met pas une, on ne valorise pas plus un choix qu'un autre. Nous, ici, à Desgenrés, juste, on est vraiment dans le questionnement du libre choix. On n'est pas en train de dire c'est mieux de se stériliser que de faire des enfants. On est bien en train de dire pourquoi, de questionner. C'est de la question. Pourquoi dans cette société on valorise extrêmement le fait de faire des enfants? Pourquoi, comment on peut observer effectivement que la maternité c'est bien quelque chose de particulièrement comment dire même, j'ai encore valorisé mais je pourrais dire d'autres mots, j'ai l'impression même
encourager
oui, ou c'est ça, voilà, merci.
En fait c'est ça aussi dans ce que tu dis par rapport à enfin en fait là, notre proposition, c'est de se dire que chaque personne, elle se projette dans le futur. Et on n'a pas. Personne n'a à dire quelle est la meilleure projection, en fait, que ce soit de se marier, d'acheter une maison, de faire des choix professionnels ou de se stériliser. Il n'y a pas une meilleure projection parmi elles, en fait. Alors qu'en effet, évidemment, la structure sociale telle qu'elle s'organise actuellement fait qu'elle organise. On peut l'appeler une pression, on peut l'appeler une valorisation, on peut l'appeler une... C'est les meilleurs choix à faire, en effet, d'avoir une maison, d'avoir des enfants, d'avoir un mari, etc.
Bon, je trouve que ça pose vraiment en plus le rapport au risque dans cette société, où effectivement, on nous parle souvent des risques qu'on prend, alors il faut faire très attention, on est assuré pour tout... Enfin, vous voyez, moi je trouve que c'est vachement lié aussi à des trucs plus globaux, enfin vachement plus à une analyse plus globale de ce monde que moi je trouve complètement fou. Je trouve ça juste, hein. Quel risque on prend quand on choisit de vivre avec quelqu'un, quoi. On prend des sacrés risques. Quel risque on prend quand on choisit de vivre une aventure. Quel risque on prend de regretter tout un tas de choses au cours de notre vie. On n'arrête pas de faire des choix et que ces choix, on les prend en conscience que peut-être on les regrettera. À un moment donné, on peut faire aussi le choix, oui, un vrai choix de je ne veux pas d'enfant, je n'en ai pas envie et je fais ce choix que peut-être je regretterai, mais comme peut-être, quelle femme ose dire et quelle femme a la possibilité de dire qu'elle regrette d'avoir fait des enfants? Est-ce qu'il y a la place pour ça? Il n'y en a aucune.
Les arguments, il y a cette phrase que j'aime bien dans un des textes qu'on a, c'est que les arguments invoqués sont essentiellement idéologiques et tiennent à une conception très fortement teintée de catholicisme selon laquelle, nous le répétons souvent, une femme ne s'accomplirait pleinement qu'à travers la maternité.
Mais bien sûr.
Alors, c'est important de pouvoir se protéger des médecins qui, la plupart du temps, invoquent donc des motifs subjectifs. Donc, on l'a vu, la question du regret, la question de l'accomplissement, de l'épanouissement ou des choses comme ça. Ou médicaux, comme tu l'as dit aussi, les risques liés à l'intervention, les conséquences psychologiques, etc. Alors, l'argument médical des risques liés à l'intervention ne sont pas valides, en fait, clairement, ne sont pas valides. Statistiquement, en effet, contraception, IVG et stérilisation ne sont pas médicalement plus risqués pour la vie de la femme qu'une grossesse. C'est même le contraire. Le risque de mourir de la prise de la pilule, par exemple, est 6 fois inférieur au risque de mourir du fait d'une grossesse. Donc ça aussi, c'est des données qu'on ne nous donne pas quand on décide d'avoir des enfants. On ne nous dit pas, mais vous savez, les risques aussi médicaux que vous encourez, les risques pour votre propre vie, on n'en parle pas.
C'est bien le signe encore d'une idéologie morale. C'est pour ça qu'on dit tout ça. C'est bien pour dire... voilà, ça symbolise bien une idéologie morale, en fait.
À rappeler que le seul argument médical, on va dire, valide... pour qu'une personne puisse réfléchir à cette décision de stérilisation volontaire en toute conscience, c'est en effet lié au... Bon, non seulement au caractère définitif de la procédure aussi, hein, on a vu quand même des personnes stérilisées qui ont eu quand même des grossesses, donc c'est important de le savoir. On dit que c'est irréversible, mais il n'empêche qu'en effet, c'est possible qu'il y ait grossesse non désirée. Et aussi, ce que tu disais, Marina, tout à l'heure, sur la question de... À moins de 30 ans, on est hyper... On est hyper fertile, on se régénère beaucoup plus facilement et que du coup, ben, peut-être avant de subir une intervention chirurgicale, il y a peut-être d'autres méthodes contraceptives avant 30 ans à réfléchir ensemble. Voilà.
Alors voilà, on ne va pas vous dérouler tous les chiffres, mais il y a des études qui ont été faites et c'est vrai que les taux d'échec, c'est-à-dire donc la réparation des trompes après une opération de stérilisation est le plus fort avant 27 ans. C'est là qu'il est le plus fort. Et à partir de 27 ans, le taux d'échec baisse. Donc c'est vraiment ça. C'est pour ça. C'est la seule raison médicale valable au fait de peut-être hésiter à pratiquer une stérilisation sur une femme de moins de 27 ans. Et encore, quand on dit qu'il est fort, il n'est pas si fort que ça. Hein, je veux dire... Avant 27 ans, le taux d'échec est de 11 sur 1000. Moi, je trouve que ce n'est pas non plus énorme. Enfin, je veux dire, c'est qu'il y en a 989 femmes sur qui ça marche, vous voyez. Donc bon, même on peut discuter aussi cet argument médical. Mais c'est le seul qui est vraiment valable.
Donc peut-être pour conclure sur cette question des résistances et autres, il est important de savoir que le principal obstacle actuellement à la stérilisation volontaire, ce sont donc les médecins, puisque ce sont eux qui sont en droit et en tout cas qui ont le pouvoir de nous accompagner dans ce chemin-là. Donc il est important de savoir qu'aujourd'hui la loi énonce clairement que si une personne a décidé de ne pas ou plus avoir d'enfant, nul n'est en droit de lui contester ce droit. Seulement, dans les faits, la stérilisation volontaire est laissée aux mains des médecins et des chirurgiens. Et donc, à partir du moment où ils sont dans le refus de procéder à ce type d'intervention, c'est un obstacle sérieux à la liberté individuelle, à la liberté de choisir. Encore une fois, on le répète, il n'est pas pensable d'obliger des chirurgiens à procéder à des opérations auxquelles ils sont idéologiquement opposés, mais on peut et on est en droit d'exiger d'eux qu'ils n'empêchent pas les patientes à y accéder. Donc ça veut dire donner une information loyale, loyale dans le sens une information claire, précise et non terrorisante, voilà, sur ces trucs de risque, de regret, etc. Le dernier point là-dessus, c'est que aussi sur l'organisation de la formation des médecins. Donc les facultés de médecine françaises, aujourd'hui encore, n'incluent pas les techniques de stérilisation à la formation des médecins. Donc c'est aussi une résistance, alors que celle-ci, si elle faisait partie de l'enseignement, au même titre que la contraception, l'IVG, etc., permettrait à des médecins de pratiquer ce geste. En tout cas, de pouvoir avoir accès à des techniques autorisées par la loi et qui sont en droit d'accéder, quoi. Mmh. Voilà. Donc non plus, ça ne permet pas de développer cet acte médical à partir du moment où il n'est même pas enseigné, quoi.
Tout à fait. Donc là, on voit vraiment toutes les résistances qui sont autour de cet acte-là. Il existe, malgré cela, des gens qui...
Pardon.
Il existe des gens qui défendent cette question de la stérilisation. Nous avons rencontré une femme assez incroyable, qui nous a raconté son histoire. Je suis malade, ça y est, on est en novembre. Donc cette femme nous a raconté son histoire, donc de femme qui a fait le choix de se stériliser, comment ça prend place dans son parcours, comment ça prend sens, et comment depuis elle s'intéresse à cette question-là, elle est curieuse, elle se fait le relais d'informations. Voilà, on va écouter son témoignage.
Alors, à savoir que ce témoignage, nous l'avons fait hier, que nous n'avons pas eu l'occasion de faire un travail de montage, donc il est brut. C'est un entretien fait à la maison, comme on dit, brut. Voilà.
Donc voilà, il y a les hésitations.
Il y a les grands blancs.
Voilà. Donc soyez patientes. On va le diffuser en deux parties. Et au milieu de ça, on écoutera des musiques. Alors là, on va vous faire découvrir trois chansons d'un même groupe. C'est un groupe qui s'appelle Les Gossips. C'est un groupe américain qui a été un peu connu l'année dernière au moment où elles ont sorti leur dernier album. On vous propose d'écouter trois chansons des Gossip avec au milieu ce témoignage d'une femme qui elle-même s'est stérilisée.
C'est toi, quel est ton parcours personnel par rapport à la stérilisation volontaire?
Donc moi, en fait, à l'âge de 35 ans, j'avais déjà 3 enfants, j'avais un peu de soucis avec la contraception, les contraceptifs, et donc j'ai fait le choix de faire une stérilisation volontairement, et je n'ai rencontré aucun problème. Donc j'ai 50 ans, là, je viens d'avoir 50 ans, je n'ai rencontré aucun problème pour faire cette stérilisation dans le centre de la France. à Montluçon. Il y a un gynéco-obstétricien qui m'avait accouché quelque temps avant, qui m'a permis de faire ça. J'ai juste signé une décharge, quoi, comme quoi je m'engageais à ne pas l'attaquer si un jour je voulais refaire des enfants. Puisque ça lui est arrivé de faire des stérilisations et il a été attaqué par la femme, une des femmes qui avait fait une stérilisation, qui après avait rencontré un autre homme et voulait faire des enfants. Et j'ai une mère aussi qui s'est faite stériliser, elle, à la quarantaine. Mais à l'époque, elle, on lui a fait une fausse appendicite. En fait, on lui a enlevé l'appendicite et c'est comme ça que c'est passé pour l'hospitalisation, pour qu'elle se fasse rembourser ses soins. Mais ma mère aussi l'a fait.
Peut-être nous raconter comment toi tu vis ça, enfin, comment est-ce que tu arrives ou pas à l'assumer dans l'espace public, est-ce que tu en parles, est-ce que tu le rends visible, est-ce que tu en parles avec contentement ou pas, et comment tu vis ça aussi actuellement par rapport à ton entourage ou plus largement la société.
Alors moi je le dis très volontiers, vraiment je le cache pas du tout. Et je suis vraiment débarrassée de cette contrainte de la contraception. À part ça, vraiment, lorsque je peux rencontrer des gens qui m'en parlent, qui me posent la question, mais est-ce que tu as jamais regretté ? De toute façon, c'est clair, je n'ai jamais regretté, puisque une fois que j'ai fait le choix, de toute façon, c'est peut-être moi personnellement qui pense comme ça, mais le choix étant fait, la question ne se pose plus. Le fait d'avoir des enfants ou pas ne se pose plus. Par contre, ce que je peux ajouter dans mon entourage, donc mon mari, qui lui n'a jamais voulu avoir d'enfants, hein, j'ai 3 enfants auparavant, s'est fait lui aussi stériliser, puisque c'est quand même la libre disposition à disposer de son corps, dans tous les sens du terme. Et lui, par contre, l'a fait en 2001, donc juste au moment où la loi a été votée. Et lui a rencontré, a eu quelques soucis pour trouver un médecin qui veuille bien lui faire cette vasectomie. Et le médecin qu'il avait reçu, qui est notre médecin généraliste, lui disait « Mais rendez-vous compte, si un jour vous tombez amoureux d'une femme... » Et alors que bon, pour lui, c'était pas comme ça que ça se posait. C'était depuis toujours, lui, il avait échappé à cette norme. Il n'avait pas de désir d'enfant, c'est très très clair pour lui. Donc lui aussi l'a fait. Alors par contre là les gens nous disent mais vous êtes fous, vous êtes deux, vous êtes un couple et vous vous êtes fait stériliser tous les deux. Bah oui, on est deux individus, voilà. Donc on l'a fait tous les deux séparément et à un moment différent, mais on l'a fait.
Et alors toi tu t'es fait stériliser avant 2001? Ouais, et alors techniquement, par rapport à la loi, comment tu peux nous dire un peu ?
Ben, en fait, c'était en même temps qu'une IVG. Voilà, c'était, je venais d'avoir un troisième enfant, désiré, hein, et je me suis retrouvée enceinte. Et donc, en même temps que l'IVG, malgré que ce ne soit pas du tout la même technique, hein, puisque quand même... on entre par le nombril, etc. Et sur les côtés, on ouvre quand même, hein, alors qu'une IVG, on n'ouvre pas. C'est comme ça que c'est passé, en tout cas, au niveau du remboursement de la sécurité sociale. Et ce que je peux ajouter, justement, par rapport à mon compagnon de vie, c'est que lui, il a été intégralement remboursé, malgré le dépassement d'honoraires, parce qu'il avait une mutuelle qui couvrait le dépassement d'honoraires.
Tout à l'heure, là, hors antenne, tu nous parlais de ce parcours aussi qui t'a peut-être amené à ça, cette facilité aussi de dire « Ok, là, je vais me faire stériliser ». Tu parlais aussi des premiers contraceptifs que tu avais eu quand tu étais jeune avec la rencontre d'Emlac. Est-ce que tu peux en parler un peu ?
Donc, en fait, j'avais beaucoup de chance. J'ai 50 ans, donc j'ai eu beaucoup de chance. À 16 ans, bah, c'était la pleine époque d'Emlac. L'IVG n'était pas autorisé encore pour les mineurs. Et en fait, j'ai eu des contacts très facilement par le biais de ma famille. Voilà, c'est la culture familiale. Avec des médecins d'Emlac et qui m'ont donc posé un stérilet à 16 ans. Moi, je ne pouvais pas prendre la pilule. J'ai pris la pilule très peu de temps, mais c'était, voilà, j'ai des contre-indications. Et donc, j'ai rencontré là aussi pas de problème, donc quand moi j'avais 16 ans.
Est-ce que tu as envie de parler un peu plus de cette expérience avec les MLAC ? C'est bon ? Peut-être, est-ce que tu peux... Là, actuellement, donc tu as un métier qui t'amène aussi à réfléchir et à accompagner en fait des demandes aussi sur les questions de stérilisation volontaire. Est-ce que tu peux aussi témoigner de ce parcours-là ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu observes ?
D'accord. Alors, je suis conseillère au planning familial et j'ai reçu plusieurs appels d'hommes qui cherchaient à des médecins qui leur fassent une vasectomie. Ils avaient besoin d'une stérilisation et rencontrant quelques obstacles, c'est sur moi que c'est tombé, c'est une chance, parce que ce sujet m'intéresse. Et de ce fait, j'ai fait une recherche sur Grenoble, sur les médecins qui pratiquaient la vasectomie, et avec les dépassements d'honoraires, toujours, dans tous les cas, puisque paraît-il que le paiement de cet acte n'est pas suffisamment valorisé pour eux. Donc ça passe de 100 euros de dépassement à 400 euros, voire plus. Donc j'ai pu communiquer ces informations à ces hommes. Il se trouve aussi qu'il y en a qui avaient des mutuelles qui, justement, comme on le disait tout à l'heure, certaines mutuelles remboursent bien, d'autres ne remboursent pas bien. Et donc, je leur ai conseillé de négocier. Voilà, la vasectomie, ça se négocie. Ça dépend des chirurgiens sur qui on tombe, mais ça peut se négocier. Donc, au planning, on a quelques noms de médecins qui pratiquent la vasectomie. Et on peut aussi dire qu'elles sont... Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il doit y en avoir deux sur qui on peut compter, qui ont effectivement un dépassement d'honoraires faible par rapport aux autres. Autrement, lorsque j'ai abordé ce sujet au planning, j'ai senti quelques résistances. Et lorsque la loi de 2001 est passée, c'est essentiellement grâce au planning, justement. Eh bien, il n'empêche que il y a quand même une grosse résistance sociale, on peut dire, sur cet acte-là, c'est-à-dire qu'on pourrait le regretter. Et alors, l'information qui pourrait être faite, et qui devrait, puisque ça fait partie de la loi, d'être informée sur tous les moyens de contraception, eh bien là, on rencontre énormément de soucis, comme si on va sur Wikipédia, le simple mot de la définition contraception, la stérilisation n'entre pas dedans, ce n'est pas considéré comme une contraception, alors que c'est une stérilisation à visée contraceptive. La définition au sein du planning, il y a quelques années, ça a été difficile aussi. La stérilisation, pour certaines, ne faisait pas partie de la contraception. Heureusement, cela a évolué, mais on rencontre tout de même des difficultés. Moi, par exemple, j'arrive pas à mettre le guide ministériel sur la stérilisation à l'accueil, parce que, parce qu'on reçoit essentiellement des jeunes et que les jeunes qui liraient ça, ça pourrait leur donner des idées, ça ne les concerne pas pour l'instant. Et pourtant, il est bien question d'information. Après, si un jeune de 18 ans veut se faire stériliser, d'abord, je pense qu'il ne rencontrera pas un médecin qui voudra lui faire. Et de toute façon, ça vaut le coup d'en discuter, quoi. Et puis, c'est toujours la question de la libre disposition à disposer de son corps. Et là, sur la stérilisation, on n'a pas bien évolué.
Before I should be used to it, but I can't take it no more. I can't.
Moi, j'ai entendu dire que dans d'autres pays que la France, comme plutôt les pays nordiques ou l'Amérique du Nord, la stérilisation volontaire est plus répandue. Est-ce que toi, tu as des pistes de réflexion, des analyses ? Pourquoi en France, il y a autant de résistance à cette méthode contraceptive ?
Alors effectivement, il y a des pays dans le monde où des milliers d'hommes et de femmes ont choisi cette méthode. Et elle reste peu courante en France. Déjà, quand on parle aux hommes de la vasectomie touchée à leur organe sexuel, tout de suite, ils ont une appréhension terrible. Maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes qui pratiquent la stérilisation. Je ne sais pas bien, je crois que... En France, on rencontre vraiment une réticence parce que il y a l'idée qu'on pourrait regretter, et que si un jeune, d'autant plus pour les jeunes, si les jeunes pratiquent cet acte, ils pourraient le regretter. En même temps, on ne se pose pas la question de la naissance, c'est-à-dire est-ce qu'on peut regretter d'être né. C'est irréversible, et la naissance c'est aussi irréversible. Avoir un enfant, c'est voilà, naître. Alors c'est vrai que c'est une question qui chagrine plein de gens, parce qu'on est quand même dans une idéologie forte sur la reproduction. Moi j'ai des enfants, je ne regrette pas de les avoir, je viens d'être grand-mère là tout nouvellement, je suis super contente. Mais en même temps je respecte quoi les gens qui ont le choix de ne pas avoir de désir d'enfant. C'est des gens qui en général, puisque j'ai fait mon mémoire là-dessus, qui ont quelque chose dans leur parcours qui fait qu'ils ont échappé à cette norme-là. Et oui, on pourra toujours rencontrer des gens qui regretteront cet acte-là, mais il est bien dommage qu'en tout cas, on puisse pas donner l'information.
Moi, j'ai même l'impression qu'il est effectivement très dommage qu'on ne puisse pas en parler, comme tu dis, ce truc de... Finalement, on pourrait parler de ce regret de s'être stérilisé, mais comme on pourrait parler sûrement du nombre de femmes qui regrettent quelque part en elles d'avoir eu des enfants, mais qui le... Enfin, pour le dire, dans cette société, ça doit être extrêmement difficile à avouer. Enfin, j'ai l'impression que ça doit être senti comme une faute. Pourtant, est-ce que ce sentiment existe ? On en parle très peu. Donc je te rejoins sur cette analyse. Et est-ce que quand même, au planning familial, il y a des... Par exemple, j'ai vu qu'il était présent quand même dans des guides. Est-ce qu'il y a quand même cette place pour en parler au milieu des autres méthodes contraceptives ?
Alors oui, quand même, hein, faut pas oublier que le planning est à l'origine de cette loi. Donc fondamentalement, le planning est pour. Après, il y a des individus au planning. Et encore ce midi, lorsque je sortais justement quelques dépliants comme choisir sa contraception, qui fait partie de la campagne gouvernementale, on s'aperçoit que sur Internet, on a les petits logos avec toutes les contraceptions, y compris la stérilisation, sur le dépliant. Il y a tous les logos, sauf la stérilisation, où ça apparaît en tout petit et en gris très clair en dessous. Et lorsque j'en ai parlé ce midi, on me disait bien, là aussi, ah oui, mais bon, ça s'adresse à des jeunes.
Tout à l'heure aussi, tu donnais quelques exemples concrets par rapport à un état de lieu pour une AG, une assemblée générale. Tu donnais quelques exemples de qu'est-ce qui peut se dire lors d'entretiens avec des médecins, ou les réticences concrètes. Est-ce que tu peux donner ces exemples ?
Bon, en tout cas, on a un gros travail de communication et d'information à faire. Alors justement, pour pouvoir communiquer, il faut informer. Donc il faut qu'il y ait de moins en moins de réticences. Enfin, je veux dire, si je parle toujours des jeunes, parce que voilà, si l'info, on l'a en étant jeune... Eh ben, on l'a dans un coin de sa tête, et moi je sais qu'en animation j'en parle très souvent. À chaque fois que je reçois une jeune fille ou un couple ou un jeune homme et qu'on parle de contraception, j'en parle, même si à chaque fois les gens disent je prêche pas pour la stérilisation, hein, mais j'informe, ça fait partie des moyens de contraception, même si c'est définitif, ça en fait partie. Et au planning, on a recensé, on a rencontré des femmes qui avaient des difficultés à accéder à leur choix. On leur demandait par exemple que leur mari signe une attestation, donc, alors que c'était des femmes qui soit étaient seules, soit étaient divorcées, soit étaient séparées, et de toute façon avaient pris cette responsabilité là elles et elles seules. Et voilà, cette option de contraception, on peut le rencontrer comme étant compliquée à atteindre auprès de femmes que nous recevons, quelques-unes, hein, il n'y en a pas énormément, mais quelques-unes.
Et elles expriment leur motivation, à quel moment de leur vie ça arrive, et est-ce qu'elles témoignent, elles ont un espace de parole pour ça?
Alors le planning, c'est un espace de parole, justement notre métier c'est fait pour accueillir la parole des gens. Moi, les femmes que j'ai rencontrées personnellement, c'était des femmes qui avaient déjà des enfants et qui, voilà, au détour d'une IVG, disaient « bon voilà, moi je galère avec la contraception et voilà, j'ai envie d'arrêter là ». J'ai rencontré dans ma vie personnelle des gens qui n'avaient pas de désir d'enfant, hein, des gens qui aimaient beaucoup les enfants, je précise, mais qui n'avaient pas de désir d'enfant, et j'en ai rencontré étonnamment pas mal, y compris des gens qui avaient adopté des enfants, et on pouvait penser que ces gens-là ne pouvaient pas avoir d'enfants, non, c'était un choix. Et par contre, au niveau de la stérilisation, ces gens-là, non. Étonnamment, ce n'est pas des gens qui se sont fait stériliser. C'est des femmes qui prennent des contraceptifs jusqu'à ce qu'elles soient ménopausées. Ouais.
Ooh, ooh.
écoutez Dégenré sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Dégenré, c'est une émission féministe faite pour vous déranger les neurones et les genres et les questions des femmes dans ce monde. On a des émissions tous les deuxièmes et les quatrièmes mercredis de chaque mois de 18h30 à 20h. Et l'émission est rediffusée les lundis qui suivent à 19h.
Donc là, on vous parlait, cette émission, sur la stérilisation volontaire. Une chose peut-être à rajouter par rapport à l'entretien que vous venez d'entendre, c'est qu'à un moment donné, elle parle des MLAC. Donc le MLAC, c'est le mouvement de libération pour l'avortement et la contraception. C'était des mouvements autonomes, des mouvements sociaux autonomes qui se sont constitués dans les années 70, début 70, pour libérer l'avortement de ses contraintes sociales, législatives, morales, etc.
Donc c'était des femmes et des hommes qui ont lutté à l'époque pour que l'avortement soit possible en France, qui en pratiquaient, et voilà. Et alors aussi, l'entretien a coupé un peu avant la fin, en fait. Et donc, elle finissait, je ne me souviens plus précisément, mais en gros, sur un espèce d'élan où elle parlait du choix et de la liberté du choix. Et il me semble que c'est un peu le message que nous, on veut garder, on voudrait garder comme trace de notre travail de recherche et donc de cette émission sur la question de la stérilisation volontaire. Bien sûr, c'est un choix important qui a des vraies conséquences dans une vie.
Puisqu'il comme tout choix de la vie.
Comme il est définitif. C'est vrai que celui-là, il est définitif.
Ouais.
En tout cas, vraiment, parler du choix. On aime beaucoup parler de choix à Dégenré. Vraiment, on est dans un monde qui nous laisse très peu de choix, qui restreint tout, qui canalise tout.
Qui ne nous
tout,
donne pas les informations nécessaires pour justement on puisse aussi choisir avec toutes les données.
On est dans un état qui choisit beaucoup de choses à notre place, qui prévient tout, qui canalise et tout. Et voilà, nous, on aime bien dire, OK, ayons toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire un choix éclairé. Et en ce qui concerne la contraception et la gestion de sa fécondité, parmi tous les choix qui existent de contraception... voilà, on n'en parlera pas ce soir, mais que ce soit le stérilet, la pilule, le diaphragme, la capote.
La capote féminine aussi.
Voilà, il y a aussi la stérilisation volontaire. Et c'est vrai que ce que disait notre invité, c'est qu'on n'en parle pas. C'est que même dans les centres militants, même au planning, c'est difficile d'en parler, c'est peu présent. Et moi, ça m'énerve parce que même là, j'ai l'impression que je suis assez contente de voir les nouvelles campagnes sur les trucs de contraception. Déjà, ils parlent d'autres méthodes que la pilule. Moi, j'ai l'impression que quand j'étais ado, à part la pilule, on me parlait de rien. Mmh. Tu voulais pas de bébé, tu voulais baiser avec des garçons, il fallait prendre la pilule quoi, ou la capote, les deux d'ailleurs. Mmh. Et moi, je trouve intéressant l'idée de dire qu'il y a plein de méthodes différentes qui peuvent s'adapter à son mode de vie, sa sexualité, en fonction de si on baise une fois par mois ou tous les soirs avec des garçons, de comment on baise, enfin bon bref, vous voyez.
Ouais, ce que j'espère vraiment, c'est que voilà, cette émission, elle aura permis d'éclairer un peu le cadre légal et les techniques, en fait, pour pouvoir avoir d'autres informations. Et je suis contente d'avoir pris une heure et demie sur ce sujet-là et j'espère que voilà, ça en aidera parmi nous.
Alors voilà, si nous, on n'a pas, par exemple, de nom de médecin à conseiller, il me semble qu'à Grenoble, ça doit être extrêmement compliqué de trouver des médecins qui pratiquent la ligature des trompes ou la méthode Essure. Dans tous les cas, ça vaut toujours le coup d'appeler le planning familial, qui est un lieu de ressources et d'informations. Le planning familial, il se situe boulevard Gambetta à Grenoble. T'as le numéro de téléphone ?
Alors, le numéro de téléphone, c'est le 0476... 87, 94, 71. Et aussi savoir qu'au planning familial, il y a un centre de documentation hyper complet,
ouais,
sur les questions de sexualité, contraception, d'avortement, de genre. Donc n'hésitez pas à y aller aussi pour ça. Et la personne à l'accueil, c'est une personne aussi qui se donne les moyens de nous donner aussi plein d'infos et de prendre du temps pour ça.
Mmh.
Et en effet, au planning, même si tout le monde ne va pas forcément... mettre en évidence, comme toutes les autres méthodes, la stérilisation, il y a quand même des personnes à l'intérieur qui qui peuvent vraiment vous informer. Aider, nous aider, voilà, dans la connaissance de l'information.
Voilà. Et il y a apparemment, j'ai quand même envie de donner cette info, ce soir on a choisi de ne parler que de la stérilisation pour les femmes, mais j'ai quand même envie de dire que nous avons l'info qu'il y a des médecins à Grenoble qui pratiquent la stérilisation pour les hommes. Donc messieurs, hein, à vos responsabilités quant à vos choix par rapport à ça. J'avais
alors,
envie de dire ça.
Mais c'est super, c'est super. Alors là, eh ben, on arrive sur les dernières minutes de l'émission. Nous avions envie de vous parler un peu des prochains rendez-vous un peu d'ici la fin du mois de novembre. Alors, un prochain qu'on avait envie de vous raconter, c'est dans le cadre du FITA. C'est un festival international de théâtre action. Il y a des filles d'Haïti qui viennent pour proposer une intervention théâtrale, mais qui se dit non fondée sur le texte, mais plutôt sur un rituel de gestes, de chants, de danse, de sons, d'onomatopées. Voilà, un truc un peu qui te met, qui peut en tout cas te mettre en transe. Et aussi, ce sont des femmes qui... je reprends un... Voilà, ce sont des femmes qui jouent en fait des instruments qui sont habituellement un domaine réservé aux hommes dans leur pratique culturelle et qu'elles visibilisent vraiment comme une transgression en fait. De pratiques, mais aussi des tabous liés à des questions dites tabous. Voilà, donc ça, c'est le mardi 18 novembre à 20h30 à l'espace 600, l'espace 600 qui est sur Villeneuve. Je pense qu'il faut réserver si ça vous branche.
Ouais, ça vaut le coup, je pense. Hein. Donc, dans le cadre du FITA, on peut trouver les petits dépliants du programme un peu partout à Grenoble. Et un autre truc auquel on a envie de vous inviter, enfin de vous conseiller vivement d'aller, c'est à Antigone. Antigone, c'est une bibliothèque-librairie associative qui se situe au 22 rue des Violettes à Grenoble. C'est vers les Eaux Claires, dans le quartier des Eaux Claires. C'est un endroit qui est vraiment chouette, où il y a des tonnes de livres et tout. Vraiment, c'est un endroit chouette. Et qui organise aussi des moments publics autour de... des livres, des mots et des idées aussi. Et donc tous les mois, ça avait déjà un peu lieu l'année dernière, et cette année, tous les mois, une fois par mois, il y aura une soirée d'exposés féministes pour découvrir soit des textes, des auteurs, des chercheuses féministes, ou tourner autour d'idées. Un peu comme une émission dégenrée, mais en réel, en live. Et voilà, en différent. Mais, la prochaine... C'est le jeudi 27 novembre et ce sera un exposé sur la question de la précarité. Comment la précarité touche de façon spécifique les femmes. Voilà. Donc si vous voulez entendre parler de ça et puis en discuter, rendez-vous jeudi 27 novembre. C'est à 20h, j'imagine.
Ouais, 20h. Ouais.
C'est à 20h à Antigone. Voilà.
Alors là, on va vous laisser bientôt pour une musique avec Wanda Jackson. Et juste avant, vous dire rendez-vous soit lundi pour une rediffusion à 19h, soit pour la prochaine émission qui aura lieu le mercredi 26 novembre. Et où là, on va rediffuser une émission de radio féministe qui travaille aussi en non-mixité sur Marseille, qui s'appelle le complot des cagoles. Et ce sera sur le thème « Lutte des femmes, femmes en lutte ». Bonne soirée.
Bonne soirée.
The trouble all started up in cell block number 4. Spread like fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun. Bang, bang, bang. Trying to stop my fun, but there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Come out with your hands up in the air. You don't stop this riot, you all gonna get the chair. Two gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, 'cause man, this music lit. There's a riot going on. There's a riot. State militia to help them win the fight. Drove up to the prison in the middle of the night. Each and every trooper, he looked so tall and fine. All the chicks went crazy up in cell block number 9. Now there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on up in cell block number 9.